Tu sais, on dit souvent le sportif est dans sa bulle, etc. Mais le comédien, le chanteur, le chef d'entreprise, il est dans sa bulle aussi. À un moment donné, tu peux pas écouter tous les conseils de tout le monde. C'est pas la difficulté qui doit freiner les gens à s'investir dans quelque chose. C'est peut-être la difficulté de construction, mais c'est pas parce que c'est dur physiquement, c'est dur psychologiquement qu'on doit baisser les bras. Il faut en baver pour y arriver, quoi. Mon entraîneur m'a dit, écoute, ce qui te sépare du record du monde, c'est 1 cm par mouvement. Tous les jours, j'en ai fait une obsession. La meilleure préparation pour ne pas stresser, c'est de... L'un des premiers souvenirs les plus probants, j'ai peut-être 14 ans, je fais une compétition, c'était à Aix-en-Provence, je m'en souviens très très bien, et il y avait un peu d'enjeu par rapport à l'entraînement que je venais de faire avant, et en fait j'ai eu un mal de ventre en fait en milieu de journée, parce que je stressais tellement de ma course le soir, je voulais tellement bien faire, je voulais tellement montrer à mon entraîneur, à mes parents, à mes amis qui étaient là, que je voulais bien faire, et bien que finalement j'ai dû déclarer forfait l'après-midi parce que je me suis rendu malade. À un moment donné, un jour, j'ai un genre de déclic. On est en 2006, je viens de me qualifier sur mes premières équipes de France. J'ai déjà 23 ans, tu vois, et j'ai encore ces phases de stress quand même. Hein. Et donc, cette période-là, c'est la période Lormanodou, qui plonge, qui nage, qui bat des records, qui gagne, qui revient avec des médailles. Et je lui dis, mais comment est-ce que tu fais dans ce moment pour enchaîner les courses, mais pour pas stresser? Et en fait, elle me dit, ben moi, j'arrive derrière le plot, j'entends la musique de présentation des nageuses et des nageurs, j'ai envie de danser. Je lui dis, mais comment ça, t'as envie de danser? Il faut nager. Et là, je dis, eh ouais, en fait, elle a vraiment ce recul en disant, mais tout ce que tu fais à l'entraînement tous les jours, X années, qu'il fasse beau, qu'il pleuve, qu'il y ait du vent, qu'il fasse nuit, que tu nages dehors, etc., ben c'est pour vivre un moment derrière un plot de départ sur une course. Donc à un moment donné, ça doit pas te rendre malade de faire tout ça parce que tu l'as choisi. Tu vois, et c'était ma façon à moi de dire, ah ouais, ok, eh bien, je vais essayer d'aller un petit peu en dilettante et de lâcher la pression parce que je sais qu'au fond de moi, je suis carré, je suis professionnel. Et je suis méticuleux, donc une course de natation, comme un match de tennis, comme un match de foot, ça reste une création. À un moment donné, il faut une part d'instinct, il faut une part de légèreté, il faut une part de fluidité. Si on n'a pas cette fluidité, si on n'a pas cette création, cette spontanéité, on est enfermé dans ce carcan et on ne peut pas performer. Si tu ne fais pas bien, eh bien, tu ne fais pas bien, il faudrait juste savoir d'où ça vient. Et c'est vraiment, ça sert de me décomplexer à ce moment-là.
En tout cas, moi, Alain, je suis vraiment très content de pouvoir passer un peu de temps avec toi. Ton histoire, elle m'inspire, ça m'intéresse d'ailleurs qu'on démarre là-dessus. Moi, la timidité, le manque de confiance, c'est un sujet qui me tient très à cœur. J'étais mal dans ma peau, complexé. Enfin, mon audience le sait. Mais ça m'intéresse que tu racontes un petit peu quel jeune t'étais, en fait.
Quel jeune j'étais? Alors, j'étais plutôt, je peux pas dire un jeune solitaire. Quoique, jusqu'à un certain âge, si tu veux, moi, je pense que on a toutes et tous une histoire qui est très singulière, et c'est ça qui est fascinant dans le monde dans lequel on vit. Voilà, on peut voir des chefs d'entreprise, on peut voir des personnes réussir ou des champions sportifs. On se dit, tiens, tout est facile, tout est beau, tout est rose pour eux, mais c'est pas le cas. Néanmoins, je me plains pas du tout. J'ai deux grandes sœurs qui ont 6 ans, 9 ans de plus que moi. Okay. Donc en fait, souvent, elles jouaient ensemble ou elles sortaient ensemble avec leurs amis, leurs copains, etc. Et moi, j'étais entre guillemets un petit peu délaissé, donc je faisais ma petite vie tout seul, mais j'en ai jamais... vraiment jamais souffert, aucunement. Et au contraire, le fait de faire du sport, là où je me sentais pas bien, c'était à partir du collège, voilà, ouais. Jusqu'à l'école primaire, etc. J'avais de très bonnes notes, j'étais très bien classé. Et quand on est arrivé au collège, en fait, je suis arrivé dans cet écosystème où je ne suis pas du tout senti bien. Mais mon échappatoire, c'était le sport. Tous les soirs, j'allais m'entraîner, j'allais nager, je retrouvais mes copains.
C'était déjà la natation. Hein.
C'était déjà la natation parce que j'ai appris à nager très jeune et du coup, eh bien, j'ai commencé à faire les premiers entraînements réguliers assez tôt. Donc finalement, cette soupape de décompression, je l'ai eue à travers le sport. Et c'est complètement paradoxal parce qu'on se retrouvait quasi à poil, en maillot. Je veux dire, même physiquement, je ne m'assumais pas bien.
C'était dur pour toi au début?
Non, parce que l'environnement dans lequel j'évoluais, finalement, tout le monde était comme ça. Il y en a qui étaient plus grands, d'autres plus minces, d'autres plus gros, voilà, il y a de tout comme morphologie. Et en fait, je me sentais super bien dans cet écosystème, alors que à l'école, au collège. En fait, je me sentais observé, épié, traqué, etc.
On te faisait des remarques sur ton corps ?
Ben oui, parce que je faisais une tête de plus que tout le monde, en fait, au même âge. Et donc, tu vois, ça n'aide pas quand t'es timide, non seulement à t'assumer, te porter bien droit, de bomber le torse. Ça veut pas dire je bombe le torse pour bomber le torse, mais...
Mais t'avais tendance... Il y a plein de gens qui sont grands qui ont tendance
exactement.
À essayer de se rabaisser.
C'est ça, tu sais, les épaules qui rentrent, et puis pour essayer de te mettre... Et en fait, tu vas
juste... On te voit pas, quoi.
En réfléchissant, tu dis, mais je descends que de 2 cm, donc c'est complètement ridicule. Parce que tu es grand, ben tu restes grand.
Inconsciemment, t'envoies un peu un signal de... Je suis pas dangereux, je suis...
Ouais, c'est ça, mais non seulement de pas dangereux, mais de dire, ben, en fait, je suis comme vous, en fait, donc pourquoi est-ce que vous me regardez différemment, etc. Donc, je pense que ces expériences-là, ces sensations que l'on vit à ces âges-là vont aussi conditionner tout notre avenir et toute notre sensibilité. Enfin, si aujourd'hui, tu vois, je suis très sensible aux personnes en situation de handicap, etc., c'est que je n'étais pas du tout en situation de handicap, mais je peux presque imaginer me projeter de ce qu'ils peuvent ressentir. Tu vois, une personne en fauteuil roulant, une personne qui a eu un accident de la vie, qui est amputée, etc., ils subissent encore et toujours des regards très compliqués aujourd'hui, même si ça a beaucoup évolué en 20 ans. Ben finalement, j'ai l'impression d'avoir presque vécu ce qu'ils peuvent ressentir. Donc, c'est pour ça que je pense que ça m'a développé cette hypersensibilité sur ces différences, parce que de toute façon, qu'on le veuille ou non, on est tous différents. Et c'est ça qui est fascinant.
Et c'est intéressant parce que ça se sent, la sensibilité que tu as. Et c'est comme si on avait un cliché un petit peu du champion olympique qui est une armure métallique,
ouais, une
froide, qui est une machine qui n'a pas d'émotion. Et quand je t'entends, quand je t'écoute, je sens l'humain, la sensibilité qu'il y a. Quelle influence ça a eu, cette sensibilité, dans ta carrière de champion ? C'était un frein, ça a été un tremplin, ça a été les deux ? Comment ça a été ?
Moi, je pense que ça a été un frein au gros début, parce que en fait, quand on est hypersensible, on prend tout un peu au pied de la lettre, et puis on est très vite ému ou désemparé quand il y a quelque chose qui ne se passe pas comme prévu. Et finalement, je ne peux pas le regretter, parce que je crois qu'émotionnellement, on vit des choses à travers du sport de haut niveau et ce type de résultats. T'imagines quand t'as des médailles, des records, les Marseillaises, etc. C'est un sentiment de fierté qui est décuplé. Donc oui, parfois cette sensibilité m'a joué des tours, parce que dans l'émotion, j'ai pas réussi à réagir, ou j'ai été submergé et ça, j'en étais presque désemparé.
T'as un moment comme ça où justement tu démarres stressé, je parle pas de la course, hein, je parle de l'avant-course, tu sens que t'es stressé et que t'as réussi à le descendre.
Ouais, carrément. On est en 2010, championnat d'Europe de Budapest, la préparation terminale se passe pas très bien, je suis crispé les derniers jours, j'ai du mal à me libérer parce que je me sens aussi cette pression un petit peu presque la fin de carrière. Je sais que si je loupe cette marche-là, je vais probablement pas terminer ma carrière aux Jeux Olympiques de Londres comme je l'anticipe.
Ça, c'est dur pour un sportif, je trouve, hein, cette pression de l'âge.
En fait, notre corps, c'est notre outil de travail. Donc, au plus on prend de l'âge, au plus il est un peu enroué. Et il faut... on n'est plus aussi performant à 30 ans qu'à 20 ans, tu vois. Donc, on est en 2010, à Budapest, championnat d'Europe. Je passe le cap des séries, des demi-finales. Je me sens vraiment pas bien. Je me torture l'esprit. Je dors pas depuis 3 jours. Je sais pas comment je vais gérer cette finale. Franchement, je me dis, mais je vais jamais y arriver. Et là, mon entraîneur, juste avant de partir, tu sais, dans la chambre d'appel, c'est cette pièce où on se rassemble tous les nageurs avant d'arriver derrière le plot. Mon entraîneur, Denis Auguin, vient me voir. Il me dit, Alain, c'est pas compliqué. Tu plonges, tu nages, tu gagnes. Et alors là, en fait, le premier réflexe, c'est de dire, mais attends, tu vois pas que ça fait 3 jours que j'essaie de réfléchir à ça? Comment est-ce que je peux faire? Et en fait, en 3 mots, mais vraiment, je pense que... Au lieu de lui répliquer ça, lui rétorquer, mais tu vois pas, j'arrive pas, je trouve pas la solution, je lui réponds, ben ouais, carrément. Et je lui fais un clin d'œil et je pars à la chambre d'appel. Et là, je fais ma course.
Et à l'arrivée, la victoire pour Alain Bauer.
Et je gagne pour 0,2 seconde devant le deuxième. Donc, ce qui est génial, c'est dans cette histoire, à ce moment-là, ça fait quand même quoi, 12-13 ans qu'il m'entraîne. Donc, on se connaît très très bien. Et il a su qu'il fallait 3 mots. Tu plonges, tu nages, tu gagnes. Donc voilà le moment où j'étais très stressé. J'ai réussi à relâcher la pression et de dire, ben ouais.
C'est simple, en fait.
Il faut juste que je fasse ce que je sais faire.
Ouais. Et ça, j'aime beaucoup. Et je crois que quand on avait parlé justement dans l'info, on avait pu échanger, c'était ce truc de se dire, en fait, le jour de la compétition, finalement, je vais faire uniquement ce que j'ai fait des centaines de fois auparavant.
C'est ça. Je pense que la meilleure préparation, enfin, pour ne pas stresser, c'est de travailler efficacement tous les jours, quoi. Alors moi, c'est tombé à l'inverse. C'est marrant parce que je dis ce que j'aurais aimé faire, mais j'ai eu du mal parfois. Je faisais tellement bien tous les jours que j'en attendais énormément le jour J, tu vois, de la compétition. Et finalement, il fallait que je déstresse à ce moment-là. Quelqu'un qui ne travaille pas bien, qui n'arrive pas aux bons horaires, qui ne gère pas ses projets, son timing, etc. Le jour où il faut rendre le truc devant le boss, etc., il a tous les arguments pour être stressé. Tu vois, par contre, s'il fait toutes les choses bien, il n'y a pas de raison que le jour J, ça ne se passe pas bien. Et encore une fois, l'erreur est humaine. Et c'est de ces erreurs, c'est de ces échecs que l'on grandit, que l'on évite de les reproduire, etc. On veut tellement vivre dans un monde parfait où tout va bien, où à travers les réseaux, tout ce qu'on voit, tout est parfait, tout est nickel. Sauf qu'on a envie de renvoyer cette image. Mais je peux aussi t'assurer que même les plus grands Instagrammeurs, influenceurs, etc., ils ont forcément des moments de passage à vide. Les sportifs de haut niveau, c'est exactement le cas. Les chefs d'entreprise, c'est le cas. Tout le monde a des passages à vide. Maintenant, moi, j'ai l'impression aujourd'hui, quand j'ai des passages à vide, d'être peut-être plus armé que si je n'avais pas fait du sport de haut niveau. Parce que je suis tellement allé dans mes retranchements jour après jour pendant des années, que je pense pouvoir gérer un petit peu mieux une situation inconfortable aujourd'hui que quelqu'un qui n'a pas vécu ça. Ça ne veut pas dire que tout est rose, tout est beau tous les jours pour moi.
Et tu as des souvenirs un peu symboliques pour toi, auxquels tu te raccroches, tu te rappuies dessus maintenant, pour te dire « Attends, j'ai pu faire ça, je peux faire ce truc-là ».
Ouais, mais tout est une question, je pense, d'envie et d'engagement. Je sais que j'ai été capable de faire ça dans le sport parce que je me suis engagé à 100%. Aujourd'hui, je ne vais pas risquer de faire des projets complètement fous parce que je ne m'en sens pas l'énergie et j'en ai pas envie. Je pense que ce n'est pas le bon timing. Il y a une question d'organisation aussi dans notre vie personnel et professionnel à agencer. Je suis à un moment de ma vie où je ne peux pas me dédier à 100% dans mon travail. Voilà. J'ai décidé de dédier un petit peu plus à ma famille, à mes amis, à mes proches, à ma femme, à ma fille. Et le temps viendra, peut-être, si je m'engage dans un projet, je m'engage pleinement. Donc, je ne peux pas espérer avoir des attentes professionnelles si en face, je ne me mets pas les moyens au quotidien. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas rigoureux dans ce que je fais. Au contraire, il y a un temps pour tout, un temps pour le travail, un temps pour la détente, un temps pour la famille.
Trop bien. Non, c'est clair. Et en plus, la vie d'un sportif de haut niveau, tu as eu tellement d'intensité pendant des années. Ça fait sens d'avoir envie d'aller explorer d'autres choses.
Mais en fait, ça fait sens. Mais je connais un petit peu le coût énergétique en fait, que cela engendre. Parce que entre nous, j'ai beau essayer de l'expliquer. Je pense qu'on est, trois à pouvoir comprendre comment est-ce qu'on en a bavé tous les jours. C'est Denis, mon entraîneur, Denis Auguin. Boris Temets, qui était mon partenaire d'entraînement à Antibes, avec qui j'ai fait les Jeux Olympiques en 2008 dans le relais. Et moi, en fait, on était ce trio. Même si on évoluait dans un groupe à l'entraînement, dans une structure de haut niveau. Moi, je partageais ma vie à l'époque avec une athlète de très haut niveau. Et je pense que même elle, à ce moment-là, n'était pas capable de ressentir la difficulté, la détresse parfois dans laquelle je me trouvais, alors que j'étais recordman du monde, champion olympique.
C'était quoi la source de la plus grosse détresse pour toi à cette époque-là?
Je pense que c'était de me dire je n'arriverai jamais à atteindre cet objectif-là à la fin de l'année, d'être champion du monde ou d'être champion d'Europe ou d'être premier à telle course, etc.
Et pour essayer de bien ressentir ce que tu dis, qu'est-ce qui crée le plus de détresse?
Je pense que c'est l'incompréhension, c'est-à-dire que ce qu'on ressent physiquement à l'entraînement, la fatigue nerveuse, la fatigue physique, la fatigue psychologique, le débordement d'informations que notre entraîneur nous envoie, les exercices qu'on n'arrive pas à faire, donc on vit ça comme un échec. Et finalement, quand on réussit à faire quelque chose, on se dit « j'aurais pu faire mieux ». T'imagines, là, il m'a demandé de faire 10 fois 100 en une minute. Eh bien, j'en ai fait 9 à 59 secondes. Et puis le dernier, j'ai fait 1 minute 01. Et bien, c'est un échec. Ben non, sauf que tu as fait 90% du travail qui est bon. Et c'est de voir en fait l'échec et le truc dans chaque truc que je fais qui me dit mais...
tu te focalisais uniquement sur ce que tu ratais, donc tu avais l'impression de pas y arriver.
Exactement.
Malgré les...
Et donc ça, c'est très difficile à expliquer, quoi. Non seulement aux personnes extérieures au monde du sport, mais même au sein même de notre sport, parce qu'il n'y a que nous qui ressentons ce qu'on fait. Et en fait, le truc, ça a été de dire, bon, bah, ok, arrête de te torturer l'esprit, quoi. Enfin, si tu as fait ça, c'est déjà que tu l'as fait. Il y en a plein d'autres qui ne l'ont pas fait. Donc, essaie de voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, en fait.
Juste avant de revenir à l'interview, j'aimerais te présenter rapidement le but de cette chaîne. À Paradox, on adore le dev perso et en même temps, quelque part, on le déteste. En tout cas, c'est code. Qu'on soit d'accord, on est certain que des petits changements peuvent changer totalement ta trajectoire de vie. Mais je sais pas toi, nous, on en a marre qu'on prenne les gens pour des débiles avec des clichés, des solutions miracles, des contenus qui sont sans nuance ou encore qui t'expliquent qu'il n'y a qu'une bonne manière de vivre et réussir sa vie. On n'est pas des clones, notre vie elle est complexe, l'humain il est complexe, et c'est pour ça que sur Paradox Sans Filtre, l'intention en tout cas, c'est de s'approcher au plus près de la vraie vie. L'idée c'est que tu t'assoies avec nous pour passer un bon moment avec des gens au parcours hors du commun, souvent inaccessibles, et on découvre ensemble les coulisses de leur vie. On rentre dans leur tête et on fait ressortir les paradoxes qui ont changé leur vie. Mais aussi qu'on t'amène lors de nos événements et sous forme d'extraits sans fioritures, l'idée c'est de t'apporter un max de valeur. Sur Paradox Sans Fil, tu vas retrouver des formats longs et bruts, le genre qui fait plaisir quand on est à la salle de sport, dans les transports ou simplement quand on a envie de se détendre mais en même temps continuer de nourrir son esprit. Avec toujours une même quête, continuellement chercher à te donner ce qui marche. Si c'est le genre de contenu qui te fait kiffer, je t'invite à t'abonner et cliquer sur la petite cloche. Sache que ça compte énormément pour nous car c'est grâce à ça qu'on peut vous trouver des invités que vous allez adorer et qui sont souvent durs d'accès. En tout cas, si tu t'abonnes, sache que je suis vraiment reconnaissant et que tu vas recevoir du contenu qui déchire. C'est une promesse.
Comment c'était la... Parce que dans le sport de haut niveau, il y a non seulement bon, la tentation potentiellement de se comparer à d'autres sportifs, il y a les médias qui ouais. en rajoutent une couche. C'était comment pour toi la comparaison avec les autres sportifs ?
C'est pas à moi de juger ma comparaison avec les autres sportifs en termes de notoriété, de visibilité, etc. Moi, j'ai fait de la natation depuis tout petit parce que j'aimais ça, parce que j'aimais progresser, j'aimais me fixer un objectif. Et ce qui me donnait tous les jours de la semaine ou du mois, eh ben, des petites choses à faire. J'avais des petites choses à faire le soir à l'entraînement. J'avais des petites choses à faire quand j'ai commencé à m'entraîner deux fois par jour et le matin et le soir. Donc, il fallait que je sois rigoureux. Et finalement, ça a conditionné un petit peu mon train de vie, mon équilibre. Et puis, quand il y a eu cette explosion médiatique, moi, 2007-2008, j'ai vu ça d'un côté comme une aubaine en me disant, bon, mais c'est cool parce que je vais enfin commencer à bien gagner ma vie. Ne serait-ce qu'à gagner ma vie tout court, mais à bien gagner ma vie, alors que pendant 10 ans, j'ai galéré, quoi. Ça, je veux pas me leurrer. C'est aussi une satisfaction de la réussite. Mais le revers de la médaille, c'est qu'on va m'attendre au tournant à chaque compétition. Quand je vais dans la rue, quand je vais faire mes courses, quand je vais au restaurant, on me reconnaît, etc. C'est gratifiant, mais à un moment donné, j'ai moins de vie privée, j'ai moins de moments perso, etc. Alors que j'aime bien passer incognito, etc. Donc, finalement, c'est la gestion de tout ça. Et je parlais des revenus, mais mes partenaires, les sponsors que je signe, etc., ils me demandent des sollicitations une fois, deux fois, trois fois dans le mois, dans l'année, peu importe, etc. Et de l'autre côté, mon entraîneur ne veut pas me lâcher un entraînement. On s'entraîne 10 fois 2 heures par semaine dans l'eau. On fait 3 séances de 1h30 de musculation. Il y a l'ostéo, il y a le kiné, il y a la prépa physique, il y a tout ça à mélanger. Donc, le temps libre pour faire ces interviews, ces shootings photos, ces pubs, etc.
C'était dur pour toi d'arbitrer entre les deux ?
C'était impossible. Enfin, oui, je l'ai très, très mal vécu, ça. Et ça a été très compliqué avec mon entraîneur parce que lui, il était dans son rôle.
Au sommet de la notoriété, je me rends pas compte, un deal, financièrement, ça peut représenter combien ? Une opportunité, ça peut représenter combien ?
C'est dérisoire comparé au monde du foot, c'est extraordinaire comparé à d'autres sports amateurs, mais sans trahir quoi que ce soit, il peut y avoir un contrat d'image à entre 80 et 100 000 euros l'année pour une marque.
Ok, et qui va te prendre combien de temps ?
Eh bien, en soi, ça prend pas beaucoup, mais c'est ça plus ça plus ça. Cette marque, peut-être, elle va me prendre, je sais pas, 6 jours, 8 jours, 10 jours dans l'année. Mais c'est 10 jours où ta journée dans l'eau, elle commence à 7h, elle finit à 10h30, 11h le matin et tu reprends à 2h30, 3h pour finir à 18h. Donc tu vois, cette plage-là, une fois que tu as mangé et que tu as fait une micro-sieste de 20 minutes, il ne te reste pas beaucoup de temps. Donc en fait, ce que je faisais souvent, c'est que le mercredi après-midi, c'était la journée off. Et ouais, et des fois, je sortais de l'entraînement à 11h, je filais à l'aéroport, je prenais un avion, je faisais des interviews, des médias, des trucs, des shootings, etc. Je rentrais le soir à 23h et le lendemain, on repartait comme en l'an 40, vie, comme si de rien n'était. Et sauf que mes collègues d'entraînement, eux, se sont reposés, ils ont fait une bouffe, ils sont allés au cinéma. Donc finalement, j'ai pas le droit de me plaindre parce que, encore une fois, je gagne très bien ma vie à ce moment-là et ça fait partie du deal. Donc, mais de l'autre côté, j'ai un entraîneur qui est dans son rôle. Son rôle, c'est que moi, je progresse, c'est que je continue de progresser. Et donc, trouver cet équilibre, c'est là où j'ai eu un avocat, un agent qui ont fait un petit peu tampon et que les deux dernières années, on a travaillé avec un préparateur mental pour m'aider à mettre de l'ordre, en fait, dans toutes ces cases. En fait, c'est un peu comme, ça me fait marrer, mais je vois ce meuble là derrière. C'est des cases dans ma tête et des fois, il y a des trucs qui sont trop pleins, des trucs qui sont trop vides. Donc, c'est bien répartir et prioriser les tâches, etc.
Comment il t'a aidé, ton préparateur mental ? C'était quoi qui était le plus aidant ? Raconte-nous un petit peu.
En fait, ce qui est bien, c'est qu'il me voyait individuellement, mon préparateur mental, et il voyait individuellement mon entraîneur. Parce qu'en fait, on avait de plus en plus de mal à communiquer. On voulait aussi tellement bien faire dans nos tâches respectives que pour dire la même chose, on ne parlait plus le même langage. Et en fait, notre préparateur mental nous a un peu servi, je vulgarise, hein, mais il nous a un peu servi de traducteur, en fait. En disant, mais Alain, il faut que tu sois bon. Oui, mais Denis, moi, je suis fatigué. J'ai pas beaucoup dormi cette nuit. J'ai fait ça. J'ai la fatigue nerveuse, etc. Et donc, mon préparateur mental me faisait faire, je sais pas, des dessins. D'ailleurs, je les ai retrouvés dans mon déménagement. C'est génial. Enfin, qu'est-ce que tu aimerais faire? Me faire extérioriser des choses positives. Dans quel endroit tu te sens bien? Donc, là, je repense à un endroit dans la nature, dans les Hautes-Alpes, que j'adore. J'avais fait un pique-nique avec ma famille. J'avais vu un grand arbre dans une prairie. Pour moi, c'était le sentiment de bien-être absolu.
Et donc, il te l'avait dessiné.
Donc, je l'ai dessiné.
Et
voilà.
Après, tu le réutilisais dans ton quotidien, ce dessin?
Ouais, je le réutilisais pas, mais le fait de l'avoir mis à plat, que ce soit oralement ou par dessin, en fait, ça me rappelait cette sensation que j'avais ce jour-là. J'avais les odeurs, j'avais la lumière, tu vois, j'avais les sons, etc. C'était extraordinaire.
Et ça, par exemple, la veille d'une compétition ou...
L'idée, c'est de s'en resservir.
Tu l'utilisais ?
Ouais. L'idée, c'est de se resservir de cette image-là et en même temps de me dire, mais dans le monde où je suis tellement stressé et tout que j'aimerais trop être à cet endroit-là. Et du coup, je me disais, bon, allez, en guise de récompense, tu dois faire une bonne course. Donc, ça me rajoutait de la pression pour aller profiter de cet endroit-là.
Pour y aller.
Donc, en fait, ouais, ça nous a déjà beaucoup aidé entre mon entraîneur et moi. Et puis moi, ça m'a beaucoup aidé en disant, bon, bah, écoute, de toute façon, tout ce que tu as fait, c'est déjà génial. Maintenant, c'est que du bonus. T'as déjà fait une Olympiade, t'as déjà fait des records du monde. Donc oui, il te reste 2-3 ans à tirer. Il faut tout faire pour aller connaître ces Jeux Olympiques de Londres parce que terminer sa carrière sur des Jeux Olympiques, c'est quelque chose d'extraordinaire. Voilà ce que je souhaite à tout le monde. Et qui plus est, sur une médaille d'or en équipe, etc., qui pour moi, l'équipe m'a permis d'intégrer l'équipe de France. La boucle était bouclée, il y avait une nouvelle génération qui arrivait. Je pouvais partir complètement serein, quoi.
Raconte-moi justement la veille où j'ai entendu, alors je pense que ça c'est un exemple extrême de préparation mentale avec Phelps, je crois, alors je sais pas à quel point c'est romancé, mais parce qu'il avait beaucoup de stress je crois quand il était enfant.
Il était surtout hyperactif, Michael Phelps, ses parents l'ont inscrit à la natation parce que c'est l'un des sports, ne peux pas dénigrer les autres sports, loin de là, je ne connais pas, mais c'est un sport qui est très énergivore, la natation, parce qu'on est dans l'eau, rien que si on se met dans l'eau sans bouger, on dépense des calories sans rien faire, parce qu'il y a un échange thermique, etc. Donc en plus, on rajoute de l'effort, et ça nécessite d'être tout le temps disponible, etc. Quoi. Donc ouais, ça peut jouer sur la fatigue nerveuse, et quand tout le monde l'a déjà vécu, quand on est fatigué, quand on est épuisé, on n'a plus de recul. On fait des tâches de manière, entre guillemets, automatique. Et c'est pour ça que la natation, entre guillemets, c'est aussi rébarbatif au quotidien. On s'entraîne 2 fois par jour pour que le jour de la compétition, on n'ait pas à penser à rentrer notre main comme ça, notre coude, allonger notre bras, notre épaule, tourner la tête pour respirer à tel moment.
C'est automatique, quoi.
En fait, c'est ancrer des automatismes. Et donc, ça nécessite un entraînement quotidien. Mais des fois, dans cet entraînement quotidien, on n'a plus de raisonnement rationnel, quoi. À un moment donné, on est usé. On va nager 2 heures le matin, on renage 2 heures le soir, re le lendemain matin, re le demain soir. Donc, c'est pour ça que le cas de Michael Phelps, le fait qu'il soit hyperactif, ça l'a canalisé. Ça l'a permis de se sublimer dans ce sport.
Je sais qu'à un moment donné, je crois que c'est, je sais plus qui, lui amène un bouquin sur un peu l'auto-hypnose et il va créer un concept, je crois, de cassette. Et après, je crois que c'est un truc qu'il va faire très souvent, de visualiser une scène. Je sais plus, j'ai plus les détails, hein,
ouais,
je me souviens plus.
Mais ça, c'est, encore une fois, c'est une méthode qui lui est propre à lui. Et c'est ça qui est génial. Peut-être si ça avait été avec moi ou avec Frédéric Bousquet ou avec Laure Manoudou, peut-être ça l'aurait pas fait. Et je pense que à nous de trouver nos clés qui nous correspondent à un moment donné.
Et donc c'est ça que je voulais, c'est ça que je voulais voilà. pouvoir Est-ce avec toi. Que Qu'est-ce qui a marché pour toi la veille, j'aimerais. Mets-moi un peu dans ta, ta peau, dans ta tête.
À certains moments, le fait d'écouter de la musique, etc., ça suffisait, quoi. Enfin, mon petit truc, c'est quand j'arrivais sur une compétition, je ne connaissais pas les lieux, je m'asseyais dans les gradins, en fait, la toute première fois que j'entrais à la piscine, et j'observais à gauche, à droite, je m'imprégnais de cette ambiance, et j'essayais de faire comme à la maison. C'est-à-dire me sentir bien, essayer de... Plutôt que d'arriver, de passer par un endroit et regarder de manière un petit peu furtive quelque chose où je me sens un peu épié.
Ouais, c'est clair.
Où ça me ramène dans ma période d'ado en me disant « Ah là, je suis épié, là, je suis observé, etc. On m'attend et tout. »
Tu te l'appropries avant.
En fait, voilà, c'était une des choses qui fonctionnait bien, c'était de m'approprier cet environnement.
Ça me parle à fond même. Moi, je vois que des fois, pour une conférence qui va me stresser, le fait d'aller dans le lieu avant, voir la salle... Ça évite que le cerveau limbique il se mette en mode stress au moment où tu rentres.
C'est ça.
Tu te sens
et
plus
tu vas l'avoir
toi.
Vide ou tu assistes à la salle, enfin à quelque chose quand la salle est pleine.
Moi, idéalement vide.
Ouais, d'accord.
Ça me permet d'être justement serein. Il y a pas d'enjeu.
Ce qui est génial, c'est le sentiment de l'inconnu en fait qui nous permet d'appréhender. C'est pour ça que les souvenirs, les ancrages que l'on peut créer, en fait, auxquels on peut se raccrocher, eh ben c'est forcément au passé. Ce sont des images, ce sont des sensations. Tandis que ce qu'on fait là, ce qu'on va faire demain, après-demain, c'est quelque chose d'inconnu. Et c'est là où cet excès de confiance, on peut dire « Ah, mais c'est pas grave, une interview, j'en ai déjà fait, des conférences, on a déjà fait, une course dans un bassin, j'ai déjà fait. » Et ça ne veut pas dire qu'on en a acquis pour toute une vie. Parce que on évolue, on grandit, on a cette sensibilité aussi qui évolue et parfois, on est moins performant. Et ça, c'est assez difficile à accepter. Voilà, quand on a le souci du détail, on ne veut pas rater quoi que ce soit. Moi, des fois, je sors d'une conférence comme je sortais d'un entraînement ou d'une course. Eh bien, je ne suis pas content. Je me suis dit, je n'ai pas été bon. D'autres fois, je me dis, ah, je pense avoir été bon. Et on me dit, ah, là, tu n'étais pas trop bon là-dessus. Donc, finalement, on
c'est
te casse.
C'est très subjectif.
Ouais. Et voilà, donc...
Surtout que là, ce n'est pas comme une course. Il n'y a pas un chrono qui objective. Tout le monde est d'accord sur un chrono.
C'est ça, le chrono. Et c'est pour ça que j'ai aimé ce sport, d'ailleurs. On n'en a pas parlé, mais pourquoi j'ai aimé la natation? Parce que c'est hyper rationnel. C'est le premier qui touche le mur qui gagne. C'est pas une question de jury qui va mettre 6, 4, le patinage artistique.
C'est horrible ça.
Ou la danse.
T'as des trucs comme ça où tu dis non, mais attends, elle a été trop forte, qu'est-ce que tu nous fais là?
Et ça, je pense que j'aurais pas supporté. Donc, c'est quelque chose aussi qui m'a donné envie de m'engager là-dessus. Maintenant, il y en a d'autres qui aiment les choses de notation et qui veulent essayer de.
Moi, j'aurais pas supporté. Séduire.
C'est vrai, pareil.
Ah non, ça aurait été horrible de devoir être évalué.
Pourtant, sur une conférence à la fin, si on devait avoir une note, tu aimerais...
Ouais, c'est une bonne question, mais par exemple, Alors, à la limite, c'est tout le monde. C'est différent d'un jury pour moi.
C'est un peu plus représentatif, une assemblée, plutôt qu'un jury, quoi.
Il y a un côté un peu plus objectif dans le fait que ça soit large. Mais par exemple, si j'avais quatre experts en prise de parole ou sur mon sujet qui m'évaluent à la fin, je pense que je détesterais ça.
Et pourtant, il y aurait des choses bien à tirer.
Forcément, mais c'est sûr que de base, c'est moins le truc qui me... Parce que justement, le fait d'être... C'est pas pareil d'avoir un feedback, ça j'apprécierais d'avoir un feedback. Mais qu'il y ait une évaluation faite par des personnes, par des pairs.
Et puis du coup, c'est stressant. Ça voudrait dire qu'il y a un coup près, en fait, et ça peut même tronquer notre échange, en fait, s'il y a quelqu'un qui est à côté, qui nous juge à la fin. Et c'est pour ça qu'en fait, il faut en être conscient de cet environnement, mais on ne peut pas en faire en abstraction totalement. Tu sais, on dit souvent le sportif est dans sa bulle, etc. Mais le comédien, le chanteur, le chef d'entreprise, il est dans sa bulle aussi. À un moment donné, tu ne peux pas écouter tous les conseils de tout le monde. Il faut que tu choisisses entre blanc ou noir, A ou B, pour être serein avec toi-même. Parce que si tu dis « Ah ben, je choisis A », puis en fait, l'autre, il m'a parlé de B, mais alors c'est vrai, putain, si je l'avais écouté, qu'est-ce que je... En fait, tout ce temps de réflexion-là, il n'est pas dédié à un temps personnel où se dire « Bon ben, ok, j'ai choisi A, et puis je vais faire comme ci, je vais faire comme ça, je vais dérouler mon truc. » Ça ne veut pas dire que j'ai raison ou que j'ai tort, mais au moins, je suis serein avec moi-même. Et je parlais tout à l'heure de cette fluidité, enfin, je sais pas... libérer un peu les chakras, faire qu'entre l'intention et la réalisation, il y ait moins d'obstacles possibles. Et dans ma carrière, c'est des moments comme ça que je retiens qui sont extraordinaires, où quand je nageais des fois, j'avais presque l'impression d'être spectateur de moi-même en me disant « Putain, t'arrives à faire ça, vas-y, essaie de faire ça, d'allonger un peu plus le bras. Oh, ça marche tout de suite. » Alors que des fois, j'étais bloqué, je me disais « Allez, force-toi à faire ça. Ok, oui, mais t'as oublié de pousser fort derrière, etc. »
Qu'est-ce qui t'a permis de rentrer dans... Est-ce que t'appellerais ça du flow?
Ouais, on peut l'appeler du flow, je sais pas, mais c'est... Moi, je pense qu'il y a des moments aussi dans des vies comme ça où quand tu travailles, au bout d'un moment, je prends souvent cet exemple quand j'ai battu mon premier record du monde à Eindhoven en 2008. Depuis des années, j'avais plein de petites pièces de puzzle en 3D. Et en fait, j'ai réussi enfin ce jour-là à bien les emboîter, à bien assembler tout ça. J'avais plein de petites compétences, mais qui étaient un peu désordonnées. Et pourquoi, à ce moment-là, comme ça, maintenant, dans cet endroit, à ce temps-là, j'arrive à faire ça? Je ne saurais pas le dire parce que je courais après depuis des années, en fait. Mmh. Pourquoi, à ce moment-là, je fais ça? Et finalement, j'ai l'impression de faire un plus bel édifice parce que je suis plus armé. Si j'avais fait mes trois petits bouts de briques, je sais pas, 5 ans ou 10 ans avant,
ouais,
j'aurais été fier de ce petit truc. Mais là, c'est quand même un record du monde. Je me dis, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Et en même temps, ça n'a jamais été aussi facile.
C'était comment d'avoir ce record du monde? C'est quoi le moment qui est le plus fort pour toi à ce moment-là?
Il y a un moment un peu surréaliste et un autre moment où je me dis enfin quoi. Enfin enfin, parce que...
Tu le sais quand que t'as fait le record du monde?
En fait, c'est vraiment au moment où on touche le mur et en fait on se retourne et on voit sur le panneau d'affichage notre nom, notre ligne et le chrono en face. Et en fait à ce moment-là, il y a tout en haut du tableau sur chacune des courses, il y a le temps de référence du record du monde de la course concernée. Donc moi c'était 47-84, le record du monde de Pieter van den Hogenband, le Hollandais à l'époque qui était double champion olympique. Et en dessous je vois mon temps 47-60. Et là je dis mais attends, mais c'est quoi qui est plus grand? C'est 60, c'est 84? Mais alors moi j'ai fait 84, lui il fait 60 ou c'est moi? Attends, j'ai dit... Et puis là, en fait, je réalise, je fais, mais c'est un truc de dingue. Et j'entends l'euphorie de la piscine.
Et à ce moment-là, t'arrives à voir des visages, tu vois des... C'était trop loin, tu vois des...
Oui, je vois les visages, je vois le clan français. Et... Non, mais ce qui est génial, c'est que je bats le record du monde chez lui à Eindhoven où il n'y a que des spectateurs hollandais, quoi.
Wow.
Mais qui m'applaudissent. Enfin, tu vois, et je me dis, c'est des moments extraordinaires. Et encore une fois, voilà, ça a été un moment hyper facile. Mais parce qu'avant, il y a eu des moments hyper compliqués.
Ça, c'est intéressant, ouais, ça s'applique à tellement de sujets. Tu crois que tu galères. Mihaly, un chercheur sur le flow, et il dit que le flow, ça arrive au croisement de t'as rassemblé, comme tu disais, toutes les compétences dont t'avais besoin, et en même temps, t'as un challenge qui est vraiment élevé, mais pas trop élevé, qui est à la bonne dose,
oui,
par rapport à tes compétences.
Parce que s'il est trop élevé, t'y arriveras jamais, et en même temps, ouais, non, mais c'est exactement ça.
Et il dit que souvent, t'as une phase un peu de struggle, où tu galères, et il y a un truc qui lâche, c'est un peu comme la personne qui fasse sa feuille blanche et qui arrive pas, elle y arrive pas, elle y arrive pas, mais elle a les compétences et d'un coup, boum, le truc il lâche, ouais, et elle rentre dans une forme de flow, quoi.
Je pense que l'une des erreurs, en fait, ce serait d'aller le chercher volontairement, ce flow, en fait.
Ouais, à chaque fois, en plus.
Il y a un ancien champion de très très haut niveau, un nageur de très haut niveau qui s'appelle Alexander Popov, qui était le prédécesseur recordman du monde à l'époque et qui disait qu'un record, ça doit... Enfin, soit un record personnel ou un record du monde, ça doit tomber comme un fruit mûr. Et ça a souvent résonné. Je me dis, en fait, ça arrive à ce moment-là. Si ça arrive trop tôt, ça veut dire que c'est pas abouti, même si...
En fait, tu cherches pas le record, tu cherches à être le meilleur de ton entraînement.
Exactement.
À faire le max que tu peux. Et au bout d'un moment, à force de cumuler ça, et tu fais ton record.
Moi, j'ai pas fait d'obsession de ce record, en fait. Je vais juste te raconter une anecdote parce que c'est quand même... C'est quand même génial celle-là. C'est qu'en 2007, en fait, donc l'année juste avant ce record du monde, je nage 48-12, qui est le deuxième meilleur temps qui n'ait jamais été fait à ce moment-là au monde. 48-12 sur un 100 mètres nager. Bon. Se passe l'été, on a 3-4 semaines de vacances, on fait la reprise et tout avec mon entraîneur. Et puis là, j'ai dit, mais écoute, Denis, enfin, je me revois tout gamin où j'apprends à nager. J'ai dit, t'imagines, j'ai fait la deuxième meilleure temps mondial de tous les temps, 48-12. Comment est-ce que je peux faire mieux, quoi? Enfin, je veux dire, on s'entraîne déjà 4 heures par jour. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus, quoi? Et donc, il me dit, bon, attends, on se revoit dans une semaine. Même jour, même heure, on se revoit, on se refait un entretien comme ça. Il revient, il a une feuille A3 et en fait, il avait comparé le record du monde de Pieter van den Hogenband et mon meilleur chrono, 48-12. Il avait tout décortiqué, le nombre de mouvements, la fréquence, le nombre de respirations, les chronos, etc. Tout ça pourra tout simplement arriver de manière très rationnelle à la conclusion où il m'a dit, écoute, ce qui te sépare du record du monde, c'est 1 cm par mouvement. C'est-à-dire que si tu es capable de refaire tes fameux 48-12, mais qu'à chaque fois tu vas pousser un petit centimètre derrière, tu vas chercher l'eau un centimètre devant, eh bien tu as toutes les chances de faire le record du monde en 47-84, quoi. Et donc, moi, ça m'a mis...
Un truc accessible.
Non, mais tous les jours, j'en ai fait une obsession. J'ai dit, bah, écoute, je vais pas faire un centimètre, je vais essayer de faire 3 centimètres dans ma tête. Et à chaque mouvement, je te jure que je m'agrandissais au maximum, je m'agrandissais au maximum à l'entraînement. Je sais pas si c'est ça qui a fait que...
Mais ça peut que aider.
mais en tout cas, ça a mis quelque chose de très rationnel sur un truc où je me disais, oh, j'arriverai jamais, enfin...
Ouais, et ce qui est
j'arriverai
génial,
jamais à battre un record du monde.
C'est que t'a permis de casser la croyance que c'était impossible.
Ouais.
Et à rendre ça accessible.
De manière rationnelle. En ouais. disant, écoute, Alain, c'est un petit centimètre, quoi.
Trop bien.
Et tu dis, putain, mais tous les jours, je travaille pour un centimètre, quoi. Donc, quand on est dans cette phase de détail-là, bien sûr, on est sur du sport de très haut niveau. Mais c'était exactement pareil quand j'avais 10 ans. J'allais pas m'entraîner que 2 fois par semaine, alors qu'il y avait 4 sessions d'entraînement. J'y allais les 4 sessions. Donc, c'est pas venu du jour au lendemain. Cette rigueur, elle est venue avec le temps. Et je m'en rends compte, quand j'ai arrêté ma carrière, en l'espace d'un mois ou deux, je me suis dit, mais comment est-ce que j'ai fait pour faire tout ça, quoi? Aujourd'hui, je ne pourrais plus. Enfin, je ne peux plus nager 2 fois par jour, même si je dis, je fais un comeback ou quoi. Non, c'est pas possible. J'ai été au bout du truc, quoi.
Tu peux raconter, justement, je me souviens plus laquelle c'est de finale.
C'est la finale de Pékin.
Voilà, si tu peux la raconter, moi ça m'avait touché. J'avais adoré pouvoir la vivre au travers de tes yeux. Je trouve que c'est un beau cadeau. On n'a pas la chance de vivre une finale tous les jours. Moi, je l'ai jamais vécu.
Eh ben allez, je vous embarque pour 47 secondes et 21 centièmes. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant avant chaque course, alors les nageurs de haut niveau n'utilisent quasiment pas les vestiaires dans les compétitions, faut le savoir. En fait, on met une serviette autour de la taille et on se change comme ça. L'endroit où je me change, c'est l'espace kiné de l'équipe de France, c'est-à-dire où il y a nos tables de massage, nos kinés, et il y a tous nos collègues qui posent leurs affaires ici parce qu'on est proche du bassin d'échauffement et de récupération, qui est un autre bassin lié à la compétition.
Ok.
On a un petit coin, hein, très petit, qui doit faire 2, 3, 4 mètres carrés, maxi, le temps de se changer, sinon on est un peu entassés les uns contre les autres.
C'est silencieux ou ça rigole ou...
Non, ça vit. En fait, il y a de la vie dans le bassin parce que le bassin est à 10-15 mètres et puis les autres se font masser, racontent leurs courses, ils racontent des blagues et des choses qui n'ont rien à voir avec le sport. Voilà, c'est un moment en même temps de détente et de concentration.
Okay.
C'est vraiment cet écosystème-là. Donc, Clan France, je mets ma combinaison parce qu'à ce moment-là, et combinaison longue. Et puis là, musique, je commence à me préparer, je me projette vraiment dans ma course, même si j'y suis déjà. J'essaie de retenir des choses capitales pour la course. Et je me dirige vers cette fameuse chambre d'appel. Donc c'est un long dédale de couloir qui doit faire, je sais pas, 80, 100 mètres. Donc là, on croise beaucoup de monde, des gens qui... Des athlètes qui sont déçus de leur course, d'autres qui sont super contents. Voilà, et ce qui est génial dans les Jeux Olympiques, c'est qu'on voit des athlètes toutes les tailles, de toutes les couleurs, des grands, des musclés, de tout. On se dit, c'est juste génial que chacun ait sa chance de s'exprimer là. Et donc, avant de rentrer dans ce couloir, Denis, mon entraîneur, me dit, bon, Alain, pense à ça, essaie de penser au départ, attention ta reprise de nage, ton truc. Et comme il faisait souvent avant chaque course, mais là, il allait me donner, j'ai l'impression qu'il allait me donner un peu trop d'informations. Et là, je l'arrête, je lui dis t'inquiète, tu vas te régaler. Et je lui fais un clin d'œil et je me tourne et j'y vais. Donc, là, en fait, il est resté comme ça, il a dit mais je lui avais jamais fait ça.
Donc tu rentres,
oui.
Il y a le bruit j'imagine d'un coup là qui arrive aussi.
Il y a surtout beaucoup de lumière, beaucoup de bruit. Puis tu vois cette piscine avec cette eau plate, limpide. Tu te dis ouais, c'est le calme avant la tempête quoi. Et donc voilà, on arrive dans cette chambre d'appel et là je vois tous les autres athlètes qui sont stressés. Il y en a qui sont assis sur des chaises, il y en a qui sont assis par terre, il y en a d'autres qui sont en train de faire des exercices qui tiennent pas en place. Moi, je me lève, je m'assois, je ne tiens pas trop en place non plus.
Ton cœur, il est comment à ce moment-là?
Mais franchement, il est hyper serein, je suis
T'es
hors
calme.
Du temps. J'ai ce sentiment d'insouciance où j'ai pas l'impression que je vais vivre une finale olympique. Pourtant, je le sais au plus profond de moi. Et en fait, juste avant de partir, le speaker nous appelle pour aller derrière le plot. On se fait un petit clin d'œil avec Eamon Sullivan, avec les autres adversaires. On se souhaite bonne chance. Et ça, c'est génial. Bonne chance, mec. Sois bon. Genre que le meilleur gagne, quoi. C'est pas je vais te bouffer, etc. C'est juste après, quand on monte sur le plot, ou dans notre tête, on dit je vais te bouffer, je vais te bouffer. mais juste avant, on lui souhaite quand même bonne chance.
Ouais.
Parce qu'on espère qu'il nous la souhaite aussi. Et on se dit, cette énergie, il y a un échange d'énergie à ce moment-là, tu vois.
Ouais.
Tu veux pas souhaiter le pire à ton adversaire. Tu veux gagner à la loyale, quoi, en fait. Tu vois. Et donc, ça passe aussi dans ce comportement-là. Et donc là, voilà, le protocole, il présente les lignes. Et là, tu enlèves juste ton survêt, tes baskets, tu fous tout dans une caisse. Et t'es juste impatient, tu dis, bon, allez, on y va, allez, on y va. En fait, le protocole de départ, on monte sur le plot. Je regarde vraiment ma ligne. Et en fait, quand je me baisse, tu sais, au-dessus du plot, je vois mon reflet dans l'eau. Et c'est ma façon à moi, c'est mon petit rituel depuis de nombreuses années. Et je le refais à ce moment-là, je dis, allez mec, sois bon, c'est à toi de jouer. Donc c'est une façon pour moi d'extérioriser, c'est pas moi qui vais nager.
C'est ce gars-là.
C'est ce gars-là dans l'eau, là. Tu sais, c'est ce reflet. Non mais tu penses à des trucs, des fois quand tu le dis, mais c'est complètement débile en fait. C'est vraiment toi qui nage, donc c'est pas à lui. Mais en fait, sur le moment, ça fait énormément de bien. Donc voilà, ça peut être un gris-gris, ça peut être une habitude. Et c'est à ce moment-là où eh bien, tout va commencer. Là, le protocole de départ est donné. À ce moment-là, je me sens extrêmement serein. J'ai cet adversaire redoutable, dont mon adversaire direct, qui est Eamon Sullivan, qui vient de battre mon record du monde 6 minutes après que j'ai battu la veille. Donc la pression est à son comble, mais moi, je suis détendu derrière le plot. Et je le sens très tendu, lui. Et là, je me baisse juste avant le « Take your marks ». Et là, je sens mes jambes qui tremblent. Et je me dis, non, c'est pas possible, je vais pas tomber dans l'eau maintenant, c'est pas possible. Et là, le départ est donné. Les automatismes reprennent leur cours. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ondules. 1, 2, 3, 4, 5, 6 mouvements, je respire. Je respire tous les 4 mouvements. J'allonge ma fréquence, je sais que je suis un petit peu derrière mon adversaire, mais je sais que je vais le reprendre. Je reviens très vite à sa hauteur. On est déjà à quelques mètres du mur, il faut pas que je rate mon virage, il faut pas que je rate mon approche, je garde la fréquence, j'essaie de m'enrouler très rapidement, de faire 3 ondulations avant de reprendre ma nage sans respirer.
Et Alain Bernard qui passe même juste à côté d'Eamon Sullivan. Oh, la deuxième longueur avec Sullivan qui accélère maintenant et Alain Bernard.
Et là, je sens que on est au coude à coude. Et comme m'avait dit mon entraîneur, il m'a dit, Alain, si tu es au coude à coude à 25 mètres de l'arrivée avec lui, sache que tu es plus rapide, tu as toutes les chances de toucher devant. Et en fait, au lieu de me sentir dépassé, je me suis senti en train de revenir sur lui. Donc là, c'est un sentiment extraordinaire. On arrive dans les 20 derniers mètres de la course, on est dans les mêmes mouvements, les mêmes temps. On est en train de vivre un moment unique dans une vie, c'est une finale olympique. Mais peu importe, moi je suis dans l'adversité directe à ce moment-là. Et là, on arrive dans les 15 derniers mètres et à chaque mouvement, j'ai tous des flashs sur toute ma vie. Je vois ma vie défiler, je me vois en train d'apprendre à nager, je me vois en train de pleurer 2 mois avant cette finale olympique au bout du bassin, tout seul, en me disant j'y arriverai jamais. Je me revois avec ma famille, avec mes amis, dans toutes des situations complètement différentes. On est à quelques mètres du mur, je sais qu'il faut que je tende le bras le plus vite possible, je tends le bras. Je retourne la tête et je vois que je suis champion olympique. Et là, c'est un moment extraordinaire, hors du temps. Je me dis juste, c'est super, je viens de gagner une finale. Et 4-5 secondes après, je me dis, mais c'est la finale des Jeux Olympiques. Eh bien, c'est super, j'ai atteint mon rêve, en fait. Je souhaite juste que ça dure éternellement. Donc, pris dans le brouhaha, l'euphorie, je vois ce double champion olympique, Peter van den Hogenband, qui vient me féliciter, qui vient de terminer 5e de cette course. Je félicite mon adversaire direct, Eamon Sullivan, qui lui est dépité, parce qu'en fait, s'il avait nagé son propre temps, il aurait été champion olympique.
Toi, les émotions que tu as à ce moment-là, c'est quoi en fait? C'est de l'euphorie,
Moi, c'est de la satisfaction et c'est de... Je suis hors du temps, j'ai l'impression de plus toucher terre, d'être en lévitation et en même temps d'être pleinement conscient en fait de ce moment-là. Je vois le bonheur que ça procure dans le clan français, auprès de mon entraîneur, auprès de mes amis.
Ton entraîneur, il est où là à ce moment-là?
Je mets très longtemps à le retrouver après mon entraîneur parce qu'on part dans le protocole des interviews devant les télés, les radios, la presse écrite, etc. Il y a la conférence de presse officielle juste après le podium. Donc le podium, il y a l'hymne. Je vois le président de la Fédération Française de Natation qui arrive pour me donner un bouquet de fleurs qui est complètement en larmes, etc. Je dis mais pourquoi il pleure?
C'est comment ce moment pour toi?
C'est trop rapide, c'est 10 ans de travail minimum qui partent en... Bah, qui partent, aller en comptant le protocole, tout ça, une demi-heure, 45 minutes, quoi. Et on a juste envie que ça dure une éternité, quand on voit le bonheur que ça procure.
Donc là, tu reçois le bouquet, il pleure, et après,
ouais,
c'est comment
la médaille, ben, c'est la remise de la médaille. Je regarde cette médaille, je dis, waouh, elle est juste dingue. Et puis là, je vois les drapeaux se lever pendant l'hymne, le plus bel hymne du monde avec le plus gros drapeau du monde qui se lève après une finale de 100 mètres nage libre. Voilà, qui l'eût cru? Je veux dire, même moi, allez, 2 ans avant, j'y croyais pas. C'est vraiment, ce rêve-là, il a pris forme 2 ans avant, quoi, 1 an et demi. Je repense à tous ces moments de galère. Et je repense que c'est une aventure énorme, quoi.
Là, j'ai vu qu'il y a de l'émotion, là. C'est quoi l'émotion que tu ressens, là, quand t'en reparles?
Aujourd'hui, je peux pas le cacher, j'ai énormément de fierté, mais je l'ai pas volé. Voilà, c'est du travail. Et c'est du travail parce que j'ai été passionné par quelque chose. Et c'est vraiment le maître mot de tout ce que je veux faire aujourd'hui. C'est-à-dire que quand on est passionné dans la vie, on ne compte pas ses heures. Je rentrais pas chez moi le soir et je coupais pas avec la natation parce que je me réveillais au milieu de la nuit, soit d'avoir culpabilisé, d'avoir fait une mauvaise série, soit du stress de la compétition qu'il allait avoir le lendemain. Donc je ne pouvais pas couper, ça faisait partie de ma vie. La natation m'habitait complètement. Donc j'ai pu m'engager pleinement là-dedans et mettre beaucoup de ressources parce que c'était quelque chose de passionnant, même si c'était très dur. C'est pas la difficulté qui doit freiner les gens à s'investir dans quelque chose. C'est peut-être la difficulté de construction, mais c'est pas parce que c'est dur physiquement, c'est dur psychologiquement qu'on doit baisser les bras. Au contraire, il faut s'accrocher, il faut ne jamais rien lâcher et il faut se dire que bah, il faut en baver pour y arriver, quoi.
Et encore une fois, comme tu viens de le dire, c'est parce que t'es passionné que t'es capable de gérer ce niveau d'adversité et de difficulté.
Oui, parce que quand on est passionné, je pense qu'on est capable bah, de se documenter, on est capable de se renseigner pour avoir sa propre autocritique, qu'elle soit bonne ou pas bonne, en disant « bon, mais là, c'est bien ce que j'ai fait, je pense que c'est bien » ou « là, je pense que je n'ai pas été bon. Comment est-ce que je fais, dans tous les cas, que je sois bon ou pas bon, pour être meilleur ?» Aujourd'hui, je nage 1 minute sur un 100 mètres nage libre. Demain, comment je peux faire pour nager 59 secondes ? C'est exactement la même question que je me pose quand je nage 47 secondes et que je veux devenir le premier à nager moins de 47 secondes sur un 100 mètres nage libre. C'est exactement pareil que quand j'ai 12 ans. Cette question-là, je me la pose au même niveau. Qu'est-ce que je peux faire pour être meilleur?
En tout cas, merci. Je trouve que tu dégages beaucoup d'humanité. Ça permet aussi de casser justement ce cliché un peu comment je démarrais avec ça, avec de la machine, et de se dire ben, on peut avoir des doutes, on peut avoir des complexes, on peut avoir des phases de haut et des phases de baisse, mais à partir du moment où tu t'entraînes là, tous les jours, pendant des années, avec une passion, ben, tu peux réaliser des records, tu peux réaliser des rêves. Là, finalement, la natation et le sport olympique, c'est presque une métaphore des rêves de chacun. Je trouve ça génial parce que je suis sûr qu'il y a quelqu'un qui nous écoute qui est dans une phase de down ou qui c'est dur de se dire en fait, ça ne détermine pas le futur. Là, tu peux, entraîne-toi, continue, va chercher ton centimètre. Ça, j'ai vraiment aimé ce truc-là parce qu'il est applicable dans tellement de trucs, le centimètre.
Le centimètre, c'est le symbole en fait de l'excellence au plus haut niveau. Mais encore une fois, le centimètre, c'est quelque chose qui peut se décliner à n'importe qui dans n'importe quel domaine. Tout simplement pour être serein. Comme ça, quand tu es serein, tu travailles mieux, tu as plus de lucidité, tu vas être moins énervé si tu es en désaccord, etc. Parce que j'en ai pas parlé, mais bien sûr, on a eu beaucoup de désaccords avec mon entraîneur. Et la communication, c'est aussi le nerf de la guerre. Et si on n'avait pas échangé, on aurait été au clash. Et c'était la dernière des choses que je souhaitais. Donc c'est l'une de mes plus grandes fiertés, finalement. Mais c'est d'avoir pu faire tout ça à moins de 200 km de là où je suis né. J'ai rencontré cette personne-là, on a accroché, on a partagé cette vie ensemble. Et on a été au bout du monde, alors que c'est juste la façon de dire qu'on a les ressources proches de notre environnement.
C'est vrai que c'est important de préciser que c'est pas commun. Il y a plein d'entraîneurs et sportifs qui clashent à un moment donné dans la relation.
Pour moi, c'est impossible.
Et il y a plein de fins un peu tristes, entre guillemets, des fois, de belles relations et ça clash parce qu'il y a trop de stress, la pression, et les gens n'arrivent pas à se comprendre.
Ouais, et ça, c'est la dernière des choses qu'on veut. Et d'ailleurs, on habite assez proche l'un de l'autre, on se voit très souvent et on est encore super potes et on peut vivre la vie différemment que notre rôle entraîneur-entraîné aujourd'hui. C'est extraordinaire, c'est vraiment une rencontre d'une vie, Denis.
C'est une autre victoire là qu'on sent dans ce que tu décris.
Ah ouais.
Il n'y a pas que le record, il y a aussi la victoire humaine que tu as réussi à créer avec lui.
Mais c'est pour ça qu'on recouple avec les émotions, et je pense que ces émotions, elles nous ont portés. Des fois, ça nous a joué des tours, mais on peut pas regretter quoi que ce soit qu'on ait fait, quoi.